بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. pour les cours qu'on va faire ensemble, Inch'Allah. Étant donné que c'est qu'une fois par semaine, je préfère choisir des sujets que je fais en un ou deux ou voire trois cours que prendre par exemple les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Si je faisais un hadith par semaine, ça ferait 40 semaines. Et il y a les traductions qui sont présentes, ou alors si un frère il connaît l'arabe, il lit le charh. Il écoute le char d'un chir sur les CD ou les cassettes, et ça lui prendra beaucoup moins que 40 semaines. En 40 semaines, on peut faire plus, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère faire des sujets. Si c'était tous les jours, par exemple, ça vaut le coup qu'on fasse les 40 hadiths ou 3 jours par semaine. Mais là, pour une fois par semaine, il vaut mieux faire des choses qui vont nous faire profiter dans le temps. Donc là, j'ai ramené une série de cours sur Al-Iman. Comme j'avais fait le khutba vendredi, donc c'est un peu le même thème mais plus détaillé. Donc sur la conception, la définition de ce qu'est la foi, qu'on traduit par, ou plutôt de ce qu'est l'iman, qui traduit en français par la foi dans l'islam. Est-ce qu'on dit simplement la foi, par exemple la foi c'est dans le cœur, donc moi, que je me laisse pousser la barbe ou pas, c'est pareil. Ou est-ce que je dis par exemple la foi, c'est tant que je dis shahada et que je crois ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, mes actes ne me servent à rien. Ou alors, si je fais mes actes, ils me servent. Mais si je ne les fais pas, ça ne va pas me nuire. Toutes ces choses qui sont répandues chez les gens. Au revoir. Donc, ma tariqa, c'est que je lis le document, je traduis. Si j'ai des explications à rajouter, je rajoute. Celui qui veut me couper parce qu'il n'a pas compris, il me coupe. Bon, bien sûr, enlevant la main. Et voilà. Donc tout ce que je vais vous ramener là, pour un frère arabophone, je vais pas dire que c'est pas utile, mais c'est accessible assez facilement. Donc on commence. تعرف الإيمان المادة التي اشتق منها لفظ الإيمان. الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن وهو مشتق من الأمن. Donc premièrement, l'Iman, c'est ce qu'on appelle en arabe un masdar. C'est un adverbe qui correspond au verbe. Par exemple, le verbe ذهب يذهب, donc aller, le fait d'aller c'est الذهب. الذهب donc c'est un masdar. C'est le nom qui définit l'action qui est signifiée dans le verbe. Donc iman, quand on dit iman, donc la foi, le fait de croire, c'est le masdar du verbe amana yu'minu. Amana yu'minu qu'on traduit, qui traduisent dans les traductions du Coran et de la Sunna par croire. Et quand les mots, donc pourquoi on cherche d'abord à connaître la signification d'un mot par rapport à la langue arabe? Parce qu'il faut savoir que toujours les ulama, ils ont cette voix. Ils expliquent d'abord ce que le mot il veut dire en arabe, et après ils t'expliquent le mot, ce qu'il signifie dans la religion. Parce qu'il y aura toujours un rapport entre les deux. Et le fait de savoir de quoi il est tiré en arabe, ça va t'aider à comprendre sa signification dans la religion, et à mieux la cerner. Et souvent, donc ils disent « al-ta'arif fil-lura » ou « al-ta'arif al-lurawi », donc la définition linguistique. Après ils disent at-ta'arif fil istilah ou at-ta'arif al-istilahi ou at-ta'arif al-shar'i. Donc après ils disent, après la définition linguistique, ils disent définition religieuse ou définition de al-istilah. Al-istilah c'est le lexique religieux. Et souvent en fait la définition qui est dans le lexique religieux, elle va avoir des significations en plus que la définition linguistique. Exemple, la salat. As-salat en arabe, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ad-du'a, l'invocation. Or, dans la religion, est-ce que salat c'est simplement l'invocation? Donc nous ici, on voit d'abord qu'est-ce que ça veut dire al-iman dans la langue arabe. Et pour savoir ce qu'un mot il veut dire en langue arabe, à quoi on revient? On revient à ce qu'on appelle al-ishtiqaq, ça veut dire la racine du mot. On revient au dictionnaire arabe des premiers temps, comme l'isan al-arabe, etc. Ou alors on revient à ce qu'il a dit al-rahib al-asfahani, des ulama de la langue arabe. Et on va revenir aussi à la façon dont les arabes ils ont utilisé ce mot. Et aussi on peut s'aider aussi, souvent les ulama ils ramènent les poèmes de Al-Jahiliya, de l'époque anti-islamique, parce que c'est à cette époque, pas à l'époque présente par exemple, que l'arabe il était le mieux utilisé, et jusqu'aux 3 premiers siècles de l'islam. Après Al-Ajam, c'est un terme qui définit ceux qui ne connaissent pas la langue arabe ou qui ne sont pas de source de sang arabe entre guillemets, ils sont mélangés en entrant dans l'islam avec les arabes, et la langue des arabes elle a commencé à devenir de plus en plus mauvaise. ils mélangeaient les A avec les O, les I, et après c'est devenu des lahjat, des dialectes. Donc on ne peut pas se baser sur un texte, par exemple un poème, qui viendrait du 4e siècle ou du 3e siècle, la fin du 3e siècle de l'islam. Il faut prendre soit du début de l'islam, l'époque des Sahaba, des Tabi'in, ou par exemple ceux qui sont venus après comme l'imam Malik, etc. Ou alors des poèmes qui datent d'avant l'islam. Et il y en a beaucoup. Un exemple, il ramène de l'imam Malik pour mettre le mot pluriel, le mot Dajjal. Dajjal, vous connaissez le mot Dajjal, c'est-à-dire un trompeur, un imposteur. Pour le mettre au pluriel, il a dit Dajjajila. Dajjajila. Et ça a été rapporté que de l'imam Malik. Donc à partir de là, on peut dire Dajjajila. Parce que l'imam Malik connaît l'arabe littéraire correctement ou pas. Il connaît. C'est une hujja. C'est une preuve. Pareil pour l'imam Shafi'i, etc. Donc, la première chose que je vous avais dit, c'était la source, la racine du mot en arabe. Et la racine de Amana Yu'minu, la racine du mot arabe, c'est toujours trois lettres. Et donc, quand on regarde Amana, il y a Alif, Mim et Nun. Donc, ça vient de Amn. Ça vient de la racine de Imen. C'est la même racine que le mot Amn. Et le mot Amn, c'est quoi? La sécurité. Le fait d'être apaisé, etc., qu'il n'y ait pas de danger. Donc, il faut absolument que, déjà dans la langue arabe, là on parle même pas, là on n'est pas en train de parler de religion, on parle d'arabe, que le mot imen, sa signification, il y a un rapport avec le mot amn, qui veut dire la sécurité. Or, ce qui est connu chez les gens, dans le monde islamique actuel, dans les écoles, parce que les gens, la plupart maintenant, ils sont ash'ari, ils sont de aqidah ash'ariya. Donc, si tu demandes à une grande partie des gens c'est quoi l'imen, même pas dans la langue arabe, carrément dans la religion, ils te disent Al-Iman c'est Al-Tasdiq. Et Tasdiq c'est quoi? En français c'est la croyance. C'est-à-dire le fait que de croire en soi-même que quelque chose est vrai. Par exemple, Abdelhaq il vient me voir, il me dit il y a une nouvelle boulangerie qui a été ouverte au Qattaru. J'y crois, parce que je connais Abdelhaq, c'est mon ami depuis 20 ans. Ça c'est Tasdiq. Je crois ce qu'il a dit. C'est ça Tasdiq. Eux ils traduisent Al-Iman par ça. Par la simple croyance. Mais c'est quoi le rapport entre ça et l'âme, la sécurité? Quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Donc on comprend déjà à partir de ça que l'iman c'est plus que ça. Donc c'est une question. C'est quoi? Question? Parlez plus fort, c'est ça? C'est ça. Il faudrait un micro ou je sais pas. Si je me mets en haut. Merci.
Je crois pas, j'ai pas de tasse
Alors, je vous ramène on parle, je sais pas. Donc, Cheikh ici, il dit, c'est ce que je viens de vous dire. وقد فسر كثير كثير من العلماء والمفسرين وأهل اللغة الإيمان بالتصديق إلا أن المحققين من العلماء واللغويين بينوا أن التصديق لا يفي في الدلالة على معنى الإيمان إذ أن لفظ الإيمان يشتمل على معنى زائد على معنى زائد على مجرد التصديق هذا المعنى الزائد هو الأمن. Donc c'est ce que je viens de vous dire, que en fait la plupart, il y a beaucoup de ulama, d'interprétateurs du Coran, bien sûr on appelle ça le muta'akhirin, ceux qui sont venus après, ils ont interprété l'iman, ils ont traduit l'iman comme étant at-tasdiq, ce que je viens de vous expliquer, le simple fait de croire à une information. Ici, il dit, or, beaucoup de ce qu'on appelle al-muhaqqiqin, muhaqqiqin sur les ulama. Comment expliquer ce que c'est qu'un muhaqqiq? Un muhaqqiq, c'est celui qui vient à une époque et il réétudie certaines questions qui sont parmi les gens connues sous une certaine forme. Par exemple, à une époque, c'est connu que al-iman, c'est tasdiq. Personne ne discute ça. Ce alim, il vient et il réétudie ça en se rebasant, en remettant ça en doute par rapport à la compréhension des salafs et en revenant à la bonne compréhension. Donc ça, c'est un muhaqqiq. Il s'attache pas à une école particulière, etc. Le grand muhaqqiq, par exemple, dans l'islam, c'est qui? La plupart, Ibn Taymiyyah, par exemple, c'est un grand muhaqqiq. Il a retravaillé tous les sujets de l'islam en les montrant à partir du Coran, de la Sunna et de l'école des salafs. Donc il dit que la plupart de, qu'il y a beaucoup des gens de la langue arabe et des muhaqqiqin, donc, qui ont montré qu'en fait, le mot tasdiq, le simple fait de croire en une information, ça suffit pas pour désigner la signification du mot iman. Parce que comme iman, il est tiré en arabe de am, qui veut dire la sécurité, il faut, comme je vous ai dit au début, que la signification, la traduction du mot iman, il comporte cette signification de am. Donc, il nous cite une parole de Ar-Rarib al-Asfahani, donc qui est un savant de la langue arabe, que les ulama ils prennent comme hujja, comme preuve dans la langue arabe. Il dit, قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قيل معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أم. Donc qu'est-ce qu'il a dit Raghib al-Asfahani? Il a cité le verset du Coran où Allah il cite les fils de Youssouf qui sont venus lui dire, les fils de Yaqub, pardon, les frères de Youssouf et les fils de Yaqub, quand ils ont commis un mensonge à l'égard de Youssouf, quand ils lui ont dit que, ils ont dit à Yaqub, le père de Youssouf, que c'était, que son fils avait été tué par le loup, alors que c'est eux qui l'avaient mis dans le puits, ils lui ont dit, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِينَ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Tu ne vas pas nous croire, même si nous sommes des gens qui disons la vérité. Donc, Cheikh, il dit, Ar-Raghib al-Asfahani, ce savant, il dit, à propos du mot qui est dans le verset, mu'min, ils ont dit à leur père, tu ne vas pas être mu'min. Donc, le mu'min, c'est le mot tiré de mot iman. Il faut bien que vous suiviez, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Mu'min, c'est croyant par rapport au mot iman, c'est-à-dire celui qui a l'iman. Ils lui ont dit, tu n'es pas mu'min vis-à-vis de nous, alors qu'on dit la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit, ce savant? Il a dit, il a été dit, que mu'min ici, ça veut dire musaddiq, donc celui qui croit simplement à l'information, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il dit, cependant, al-iman, donc la foi, c'est le tasdiq avec lequel il y a al-am. Donc là, c'est tout ce que je viens de vous dire, tiré de la parole de Ar-Raghib al-Asfahani, qui dit que donc le iman, c'est pas seulement tasdiq, c'est tasdiq avec am. Donc c'est déclarer que la chose, elle est vraie en soi-même, croire à la chose, plus cette signification de M, de sécurité. On va voir que vous êtes en train de vous poser la question. Donc c'est quoi tasdik avec M? Ça va venir après, Inch'Allah. وَقَدْ اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ. Donc ces ulama qui ont montré que tasdik, que le iman, pardon, ça comporte les deux significations, la croyance plus la sécurité, ils sont basés sur deux choses. الأول الاشتقاق وذلك أن الإيمان مشتق من الأمن. Premièrement, la base du mot arabe. Comme je vous l'ai dit au début, parce que le mot arabe iman, il est tiré de am. Donc am, il faut qu'il soit présent dans la signification du mot iman. الثاني الاستعمال حيث استعمل لفظ الإيمان فيما هو أبعد من التصديق مما يكون سببه الأمن والائتمان. Et ils sont basés aussi sur l'emploi du mot iman chez les Arabes. Parce qu'on a trouvé que les Arabes, ils employaient le mot iman, donc pour une signification plus lointaine que le simple fait de croire à quelque chose. Quand ils employaient le mot iman, c'était plus que simplement croire que la chose elle est vraie. C'était plus que ça. Et donc à partir de ces deux choses, la racine du mot et l'emploi des Arabes pour ce mot, eh bien ils ont tiré que l'iman, c'est plus que at-tasdiq. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إيه تسا وغلتير ماتنا دا بارول دي ابن تيمية فإن الإيمان مشتق من الأمر فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال ولهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم. Donc Cheikh al-Islam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'iman en arabe c'est tiré de al-am. Et il dit, ça n'est utilisé que pour une information à laquelle on va croire en étant sûr, c'est-à-dire on a confiance dans cette information en celui qui nous l'a donné, en l'informateur. C'est là, c'est dans cette situation, quand on a confiance à celui qui dit l'information, qu'on appelle ça Imen. Il dit comme quelque chose d'invisible, une affaire qui est invisible pour toi, et à laquelle tu fais confiance à celui qui t'en informe. Il dit donc, ce love, c'est-à-dire ce mot, Imen, il contient la signification, avec la signification de la croyance à l'information, il contient la signification du repos, de la confiance, et de Al-Amana. Al-Amana, donc, vous connaissez le dépôt de confiance. Comme le prouve la racine du mot et l'emploi du mot. C'est pour ça qu'ils ont dit, donc lui, il parle des frères de Youssouf dans le Coran, donc lui, il va vous montrer c'est quoi la vraie signification lorsqu'ils ont dit, Wama anta bi mu'minin lana. Ils lui ont pas seulement dit, tu ne nous crois pas. C'est plus que ça. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, Wama anta bi mu'minin lana, c'est-à-dire, tu n'es pas apaisé par notre information. Tu n'es pas sûr de notre information, de ce qu'on te ramène. Et tu ne fais pas confiance à ce qu'on te ramène. Et tu n'es pas apaisé lorsqu'on te l'a dit. Donc c'est plus que le simple fait de croire. Même si nous disions vrai, parce que pour lui, il n'était pas parmi les gens, donc ses fils, il n'était pas parmi les gens à qui on peut faire confiance dans ce qu'ils disent. Donc même s'il disait vrai, lui, il peut pas les croire, il peut pas les croire avec apaisement, il peut pas être serein par rapport à ce qu'ils disent. Donc c'est pas, on comprend à partir de tout ça qu'en fait, c'est pas simplement croire. C'est plus que ça, c'est croire avec une certaine sérénité et avec acceptation de l'information. Avant de continuer, je vous donne un exemple. Par exemple, on est dans une entreprise et il y a un nouveau directeur qui est désigné. Moi et mon collègue, on marche dans le couloir. Il y a quelqu'un qui vient nous voir, il nous dit, il y a un nouveau directeur qui a été désigné. Et on le connaît, lui, c'est pas un menteur. Donc tous les deux, on le croit. Moi, je suis un rechigneur. Je le crois, je crois à ce qu'il dit. En moi-même, j'accepte l'information. C'est vrai, il y a un nouveau directeur. Mais je me dis, ouais, mais pourquoi un nouveau directeur? C'est scandaleux, c'est n'importe quoi. Celui d'avant, il était mieux. Il gérait mieux l'entreprise. Personne n'est digne de prendre sa place, etc. L'autre, il croit à ce qu'il dit. Il dit, ouais, il dit, bon, d'accord, il y a un nouveau directeur. J'y crois. Et c'est bien. Et je vais écouter ce qu'il va dire un nouveau directeur. Et je vais accepter ses ordres. Le premier, là, lui, il a fait juste tasdiq. Ce par quoi traduisent Al-Imen tous les Al-Asha'ira, etc. Il a juste cru à l'information. Mais est-ce qu'il a accepté cette information avec sérénité? Non. Le deuxième, il a fait Al-Imen. C'est ça l'Imen, c'est le deuxième. Il accepte l'information et tout ce qu'elle met en cause, tout ce qu'elle entraîne. ومما ورد من استعمال لفظ الإيمان في لوازم التصديق الذي معه أمن كالثقة والطمأنينة والخضوع ما ذكره بعض أصحاب المعاجم كصاحب لسان العرب حيث قال donc il dit ce qui a été cité dans ce sens dans les grands dictionnaires arabes, les dictionnaires en arabe on appelle ça al-ma'ajim, un des plus connus c'est lisan ou l'arabe, la langue des arabes, et son auteur il a dit al-iman al-thiqa وما آمن أن يجده صاحبه أي ما وثق. Donc il a dit al-iman c'est al-thiqa, c'est-à-dire la confiance. Et il a dit ce que, comment dire, quand une personne croit, donc en employant le verbe qui vient de iman, croit qu'elle va trouver quelque chose, c'est-à-dire elle a confiance, elle est sereine au sujet du fait qu'elle va trouver cette chose. C'est pas seulement elle le croit dans le sens elle pense qu'elle va le trouver, c'est elle en est sûre, elle est sereine à ce propos. Wathaq. وثق دونك الى كونفيونس ان سولا. وقال صاحب القاموس المحيط ensuite il cite la parole de l'écrivain du livre القاموس المحيط donc qui fait partie des dictionnaires arabes de référence. والايمان الثقه واظهار الخضوع. Il a dit la même chose. الايمان c'est الثقه, la confiance. واظهار الخضوع. Et il a rajouté lui le fait de montrer et d'extérioriser la soumission, الخضوع, et l'humilité. وقيل للخليل بن أحمد ما الإيمان؟ قال الطمأنينة في لسان العرب. Donc aussi dans لسان العرب il a été cité qu'on a demandé à Al-Khalil ibn Ahmed. Donc il fait partie des gens qui lorsqu'on leur pose une question dans la langue arabe, leur réponse est un dalil. Comme si Bawai, etc. Ou si l'imam al-Shafi'i. Quand ils disent un mot arabe, il veut dire ça, c'est une preuve. parce que c'était déjà reconnu pour leur science dans la langue arabe. On lui a dit, c'est quoi l'imam? Il n'a pas dit tasdiq. Il a dit, c'est at-toma'nina. Toma'nina, c'est quoi? La sérénité. Donc, c'est quoi la sérénité par rapport à tasdiq? C'est beaucoup plus. Ça veut dire que tu crois à l'information, mais en plus, tu es serein, tu l'acceptes. Alors que tu peux croire à l'information, mais sans l'accepter, sans être d'accord avec elle. فالإيمان إذا يطلق على فعل المخبر الذي يأمن المخبر مما يؤدي إلى تصديق لخبره يصاحبه ثقة في المخبر واطمئنان له وخضوع وانقياد لمدلول الخبر إذا كان يستلزم ذلك. Donc il dit, l'Iman, c'est une confiance donc en celui qui te donne une information, qui te pousse à croire ce qu'il dit, donc tasdiq. Tasdiq, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est la base de l'iman, c'est le fait de croire que la chose elle est vraie. Qui va en plus te donner, non seulement tu crois ce qu'il dit, et en plus tu as confiance en lui. Et en plus, tu es serein vis-à-vis de ce qu'il t'a dit. Et en plus, tu vas t'orienter et te guider selon les conséquences et selon ce qu'entraîne l'information qu'il t'a dit. Si son information, elle entraîne des règles et une règle à suivre. Donc pour résumer, parce que quand je traduis c'est un peu cassé, il dit l'iman, c'est le fait que tu vas croire à la personne, tu vas croire ce qu'elle te dit, l'information tu la crois, tu l'acceptes comme étant vraie. Plus que ça, tu vas avoir confiance en cette personne et en cette information, tu vas être serein lorsque tu vas l'accepter, et si cette information elle entraîne que tu fasses comme ci ou comme ça, tu vas le faire. Donc de là on comprend qu'est-ce que ça va être l'iman plus tard quand on va venir dans l'islam, ça va être quoi dans la religion. L'iman ça veut pas dire, ça veut pas pouvoir dire simplement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam j'y crois, d'accord c'est le prophète, ça va pas être ça. Ça veut dire tu y crois, tu es serein vis-à-vis de lui, tu as confiance en lui, et ce qu'il dit tu vas t'y plier. Ça entraîne tout ça, rien que dans la langue arabe. Là on n'est pas encore rentré dans la religion. وعلى هذا فإن تفسير لفظ الإيمان بالإقرار أكثر مطابقة لمعناه. Et il dit, la conclusion de tout ça, c'est que le meilleur mot pour traduire, pour donner une définition de l'Iman, c'est pas al-tasdiq, mais al-iqrar. Parce que le mot al-iqrar, ça englobe tout ce que je vous ai dit. Toutes ces significations, on peut les résumer par le mot al-iqrar. Donc si on te dit, qu'est-ce que veut dire l'Iman dans la langue arabe, tu réponds al-iqrar. Al-iqrar, c'est quoi? C'est le fait d'être mohim, c'est un peu dur à traduire, mais ça englobe toutes ces significations. Parce qu'il va venir des versets où il y a le mot iqrar, et là je pourrais un petit peu mieux vous expliquer, vous traduire. Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahim. À quelle heure vous finissez le cours d'habitude? 10h? C'est loin. Hein? D'accord. Donc là, il cite une parole de Cheikh al-Islam. ولفظ إيمان قيل أصله التصديق وليس مطابقا له بل لابد أن يكون تصديقا عن غيب وإلا فالمخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانا لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة وقيل بل هو الإقرار لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط أما الإقرار فيطابق الخبر والأمر. Je vais résumer ce qu'il a dit, Cheikh Islam, parce ça a un peu répété ce qu'on avait dit. À la fin, ce qui est intéressant, c'est quand il dit que l'Iman, certains ont dit que c'était l'Iqrar. Et lui, il déclare que, il arrive à la conséquence que c'est ça la bonne réponse, comme définition du mot Iman. Et il dit, et là c'est intéressant, c'est une connaissance en plus par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est que le mot tasdiq, donc qu'on traduit par croyance, le fait de simplement croire à une information, ça concerne quoi en vérité? Ça concerne juste l'information. Mais si cette information elle est suivie d'un ordre, est-ce que le mot tasdiq il a un rapport avec l'ordre? Non, il n'a pas de rapport. Le tasdiq, ça veut juste, c'est un rapport juste avec une information. La croyance. Donc si on traduit croyance en tant que tasdiq, ça a juste rapport avec une information. Je te dis une information, toi tu fais le tasdiq, tu crois. Mais si après je te donne un ordre, ton tasdiq là, il n'a plus rapport dans la situation. Il va falloir autre chose. Alors que l'iqrar, ça implique le fait que tu crois à l'information et que tu suives l'ordre. Donc c'est plus proche du mot iman par rapport à l'iman tel qu'il a été cité dans la parole des Arabes. Donc c'est pour ça que l'iqrar, la chose en plus qu'il a pour correspondre au mot iman, c'est qu'il correspond au fait de croire à une information et au fait de répondre à un ordre. Or l'iman c'est ça, c'est pas seulement croire à une information. وقال أيضا ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد.
Il dit, il est connu. Donc là, encore une fois, c'est plusieurs textes de Cheikh l'Islam où donc il vous ramène la solution que lui il choisit. On appelle ça en arabe tarjih. Il dit, et il est connu que l'Iman c'est l'Iqrar, pas seulement le tasdiq. Donc désolé, là, j'ai expliqué chaque terme en arabe, donc maintenant je les laisse en arabe. Parce que je vais pas dire à chaque fois que je dis tasdiq, que je vais traduire par le fait de croire simplement dans son cœur à une information. C'est à vous de suivre le fil du cours. Donc il dit, il est connu que l'iman, c'est l'iqrar, et pas seulement at-tasdiq. Il dit parce que iqrar, il contient la parole du cœur, qui est at-tasdiq. Parce que tasdiq, le fait de croire à une information, c'est quoi en vérité? C'est une parole du cœur. D'accord? C'est en toi-même, tu dis c'est vrai. Et le mot iqrar, il contient ça. وَعَمَلَ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ الْإِنْقِيَادِ. Et le mot iqrar, il contient aussi, dans sa signification, l'action du cœur, qui est le fait de se plier à ce qu'entraîne l'information à laquelle tu as cru. Or, c'est ça l'iman. L'iman, c'est pas seulement la parole du cœur qui est le fait de déclarer que la chose, elle est vraie. L'iman, c'est le fait. C'est cette parole dans ton cœur qui est « je crois à telle chose, je crois que c'est vrai », plus l'action du cœur. Parce que le cœur, il a des paroles et des actions. Le fait de croire à une information, c'est seulement une parole. Et le fait de se plier à ce qu'entraîne cette information, et obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une action du cœur. La soumission, l'amour d'Allah, le fait d'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'accepter ses ordres, ça c'est pas une parole du cœur, c'est une action. Et le mot « ikrar », il contient ces deux significations. La parole du cœur et l'action du cœur. Donc, c'est le meilleur mot pour définir l'iman et non pas at-tasdiq comme il a enseigné maintenant dans toutes les écoles. فشيخ الإسلام رحمه الله يرجح تفسير لفظ الإيمان بالإقرار القلب الذي يتضمن مع التصديق عملا قلبيا مناسبا. Donc, on voit que Cheikh l'Islam, il donne comme solution, comme interprétation du mot iman, al-iqrar. Al-iqrar du cœur. L'acceptation. Iqrar, on pourrait traduire comme acceptation. Acceptation ferme du cœur qui détient, qui comporte le fait de croire et qui est la parole du cœur et qui contient une action du cœur qui correspond à cette information qui est al-inqiyad, le fait de se plier. وقد ورد التعبير بلفظ الإقرار على الإيمان القلبي. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله والإقرار إثبات الشيء. وقد يكون ذلك إثباتا إما بالقلب وإما باللسان وإما بهما والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضمه بالإقرار بالقلب ويضد الإقرار الإنكار ويضد الإقرار الإنكار. Donc il ramène une parole et il va vous montrer ici que le mot إقرار il correspond à le mot إيمان dans plusieurs textes de ulama. Donc il ramène encore un texte de Ar-Raghib al-Asfahani, donc qui est un savant de la langue arabe, où il dit al-iqrar. Donc ça, al-iqrar, accrochez-vous, c'est le bon tafsir du mot iman. Il dit c'est le fait d'affirmer une chose. Il dit, et ça peut être le fait d'affirmer avec son cœur ou avec sa langue, ou alors avec les deux, avec son cœur et sa langue. Et il dit, et le fait d'affirmer le tawhid, donc le tawhid vous connaissez, et ce qui s'ensuit. Donc c'est ce qui suit le tawhid. Il dit ça ne suffit pas avec la langue. Tant que l'acceptation totale du cœur, elle ne le suit pas. Et il dit le contraire de l'iqrar, c'est l'inkar. L'inkar, c'est le reniement. Ensuite, Cheikh, il a cité des exemples de ça dans le Coran. Donc le premier verset. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Donc regardez, Allah il dit, lorsque nous avons pris votre engagement de ne pas verser vos sangs, donc ça parle là aux Hébreux, aux fils d'Israël, de ne pas verser votre sang et de ne pas vous sortir de vos maisons. Ensuite, akrartum, vous avez accepté. Il a employé le mot ikrar, alors que vous étiez témoin. وقوله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Ensuite le verset qui dit: lorsqu'Allah prit l'engagement des prophètes, tout ce que je vous amènerai comme livre et comme hikmah, donc hikmah vous connaissez, c'est la sunna, et qu'ensuite il vous viendra un messager qui déclarera vrai ce qui est avec vous, qui croira ce qui est avec vous, vous croirez en lui et vous le secourrez. Il dit, Allah dit au prophète, est-ce que vous acceptez et vous prenez mon engagement à cela? Ils disent akrarna. Akrarna, ça veut dire nous acceptons. Donc c'est le akrarna, c'est le verbe qui est tiré du mot ikrar, on avait dit, qui est le bon tafsir du mot iman, qui est la bonne interprétation du mot iman. Donc ils disent akramna, nous acceptons, et Allah dit témoignez et je suis avec vous parmi les témoins. Donc là on a fini un premier chapitre. Le cheikh dit ici khulasatu hadha al-mabhath, donc c'est quoi ce qu'on a tiré de tout ce premier chapitre? Anna tafsir al-lafz al-iman fi al-lughati bit-tasdiq al-mujarrad la yafi bima'nahu. Il est labud an yashtamil ma'na al-imani ala al-amn alladhi ishtaqqa minhu. Donc première chose qu'on a tiré, c'est que le fait de d'expliquer en arabe, là on est toujours dans l'arabe, on n'a pas parlé de religion encore, dans la religion ça va être encore entre guillemets encore pire. Donc le fait d'expliquer al-iman dans la langue arabe par at-tasdiq, le simple fait de croire à la formation, ça suffit pas pour donner toute sa signification au mot iman. Et il est obligatoire que le mot iman, il comporte une signification supplémentaire au simple fait de croire à l'information, c'est-à-dire tasdiq. Et qui est cette signification, c'est laquelle? Alors, si vous avez suivi. Non. Non, la signification supplémentaire que le mot iman, il doit comporter par rapport au simple fait de croire. Al-am. Voilà, l'apaisement, la sécurité, on avait dit, etc. Et le tout ça, c'est l'iqrar. Parce que le mot iman, il est tiré de M. Donc il est forcé que la signification de M soit apparente dans la signification du mot iman. وتبين أن أقرب تفسير للفظ الإيمان في اللغة الإقرار الذي يدل مع التصديق على عمل قلبي مناسب لما يؤمن به أوله. لما يؤمن به أو له كالثقة والاطمئنان للمخبر وقبول خبره والإذعان له ونحوها. Et donc, de tout ça, on avait tiré que le meilleur tafsir, la meilleure interprétation dans la langue arabe du mot iman, c'est quoi? Al-Iqrar. Qui comporte deux significations qui sont tasdiq, qui est le simple fait de croire à la chose, Et le tasdiq, ça correspond à quoi dans le cœur? C'est la parole du cœur. Et l'iqrar, il comporte pas ça, mais il comporte en plus comme l'acte du cœur, qui est la soumission, le fait de suivre tout ce qu'entraîne l'information comme ordre, comme conduite à suivre, etc. Maintenant, on va parler de iman dans la religion. Donc, comment on fait pour... Ça, j'avais expliqué dans le khutbah vendredi, pour un chapitre de la religion, etc. C'est dans quoi qu'on regarde en premier? Je veux savoir si le porc, il est haram à manger. Donc, quand je regarde. J'ai les preuves devant... Premièrement, c'est quoi les preuves islamiques? Lesquelles on tire notre religion? Coran, Sunna, Ijma, Al-Qiyas, Al-A'imma al-Arba'a qabal al-Qiyas. Les quatre imams, ils ont pris le Qiyas. Les Salafs, ils prennent le Qiyas. Et, Aqwal al-Sahaba. Ça, c'est celui-là, il faut pas l'oublier. Il va vous sauver dans tout. C'est quoi le hukm bi ghayri ma anzala Allah? C'est kufr duna kufr ou kufr akbar, mukhrij min al-milla? Bidoun istihlal. Hein? Si on lit des fatawa qui disent c'est kufr akbar, mukhrij min al-milla, on revient au tafsir d'Ibn Abbas, qu'a confirmé Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Athamin et Sheikh Al-Albani, qui dit kufr duna kufr. Revenir aux sahaba, ça va vous sauver dans tout. L'aqidah, le minhaj, tout, tout. Et surtout dans le fiqh. Celui qui revient au aqwal des sahaba dans le fiqh, le khilaf, il va se serrer devant lui. Et cette voie-là, le fait de, ça c'est des parenthèses que je fais de temps en temps, le fait de suivre les sahaba, même dans le fiqh, c'est la voie des quatre imams, la voie de Ishaq ibn Rahawai, la voie des tabi'in, la voie des sahaba eux-mêmes. Parce qu'on voit Ibn Abbas, quand il trouvait pas de hadith ou de ayah, dans une question, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il veut, il en venait tout de suite à son ijtihad? Qui c'est qui connaît une réponse à ça? Dans les kutub, par exemple, vous prenez Al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba, Al-Musannaf d'Abd al-Razzaq et Sunan al-Kubra d'Al-Bayhaqi. Sur les trois livres, vous retrouvez beaucoup à quoi les sahaba, surtout dans le fiqh. Et vous regardez les fatawas d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, quand il trouve pas, قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم il disait قال أبو بكر قال عمر. Et bien sûr, ça a des conditions. Et il ne faut jamais sortir ça de vos têtes. N'importe quelle mas'ala, on regarde aussi ce qu'ils faisaient les sahaba et les fatawas des sahaba. Mais c'est pas ça où je voulais en venir. C'est quoi la première chose qu'on regarde dans toute mas'ala? L'ijma. Et pourquoi on regarde d'abord l'ijma? En fait, les preuves dans l'islam, elles se divisent en deux. Il y a nas ou ijma. Un nas, c'est le texte. Donc le texte est un verset, un hadith, un qawl de sahabi. Et le qiyas, en fait, il est tiré des textes. Parce qu'on fait un qiyas que sur un texte. Par exemple, je vais vous citer un exemple comique. Un frère, il me dit une fois, il me dit, on parlait de la muqata'a, le fait de, comment ça s'appelle, le boycott. Par rapport aux caricatures du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, je sais, mais franchement, je suis gêné, mais j'ai des problèmes de gorge, en fait. Si je parle trop, moi. Si vous arrivez à venir, à vous rapprocher, j'ai des problèmes de gorge, vraiment, Yann. Et si je parle trop, dans une demi-heure, je peux partir et je vais dormir. Je serai fini. Même le fait que j'ai un problème à gorge, vous l'avez pas entendu. Hein? La prochaine fois, ouais, on s'organisera. Smahli, akhi, wallah, c'est. Je peux pas. Amen. Donc, je vous disais, on parlait de Al-Muqata'a, donc le fait de faire le boycott. Et regardez comment l'ignorance elle peut mener loin, même un frère qui est accroché à la sunna. Donc le but du discours là, c'est pas de dire que le boycott par rapport aux caricatures du prophète ça existe pas ou quoi que ce soit. Il y a des machères qui ont dit de le faire, d'autres machères ils ont dit de pas le faire. Al-Muhim, moi je vous raconte juste une histoire pour vous parler du qiyas, parce qu'on parlait du qiyas. Et je suis en train de vous dire que le qiyas, il est tiré des textes. Et un frère il me dit, moi je lui dis franchement je comprends pas pourquoi le muqata'a, tout ça. Ça bien sûr vous gardez pas ça, moi je suis pas en train de vous dire qu'il y en a pas ou qu'il y en a, c'est pas ça le sujet. Là c'est juste l'histoire et dans l'histoire il y aura quelque chose. J'ai dit au frère, je comprends pas le boycott, c'est quoi le délit, c'est quoi l'intérêt, je vois pas l'intérêt. En plus les gens qui ont fait ça, c'est pas ceux qu'on est en train de boycotter. Lui Meskin qui fait ça, une entreprise de lait, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le magazine? On va lui faire du mal alors qu'il a rien fait, etc. Et frère, sa réponse était quoi? C'était, il m'a dit, Subhanallah, si on insultait ta mère, t'aurais retourné le monde entier. Et là, on insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu fais rien, alors que pour une fois, toute la communauté, elle s'est réunie sur un truc et tout. Qu'est-ce que vous, scientifiquement, comment on analyse sa réponse? Sans dire, ouais, mais ce qu'il ne connaît rien, c'est pas un salafi. C'est un salafi, alhamdulillah, mais comment on analyse sa réponse d'une façon scientifique? C'est quoi là qu'il vient de faire? En disant, si on avait insulté ta mère, tu aurais. Il a comparé. Il a fait un qiyas. Et il en a tiré qu'il est préférable de faire un muqata'a. C'est quoi le mot, la phrase, il est préférable de faire la muqata'a, c'est quoi? Et si tu téléphones à Chir, il te dit, il est préférable de faire la muqata'a. C'est un hukm. C'est un hukm shara'i. C'est un jugement religieux. Comme le fait de dire, ya'fa'ul lihya wajib. Le fait de laisser pousser la barbe, c'est obligatoire. C'est un jugement religieux. Iqamatus salat wajib. Le fait de faire les 5 prières par jour, c'est obligatoire. C'est un jugement religieux. Le fait que tu dises, le fait de boycotter les mécréants à cause des caricatures du prophète est préférable, c'est un jugement religieux qui a besoin d'une preuve. Comment il a prouvé ça? Il a fait une comparaison. Si on frappait la mère de Abbès, pour le insulter, il aurait retourné le monde entier. C'est ça, ça. Donc, on compare ça et on en tire que eux, ils ont insulté le prophète, on retourne le monde entier. C'est ça, sa comparaison. C'est un qiyas. Donc, déjà, le qiyas, quand si vous lisez un livre de 20 pages d'Usul Fiqh, le plus petit livre, il va vous expliquer que le qiyas, l'analogie dans l'islam, qui est acceptée, que les ulama, les a'imma, ils faisaient, pour en tirer des jugements, des ahkam, elle a des conditions. Parmi ces conditions, c'est que le jugement sur lequel tu vas te baser, il a été affirmé par le Coran ou la Sunna. Or, est-ce que le Coran et la Sunna ont dit que la merde, si on insultait la mère de Abbas, il aurait retourné le monde entier, est-ce que le Coran et la Sunna, ils ont dit ça? Donc déjà, t'es parti d'un point de départ qui est pas de la religion. Et deuxièmement, t'en as sorti, donc, t'as comparé les deux situations. Or, est-ce que la mère du frère, elle a la même importance que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Donc, t'as comparé deux choses qui sont pas comparables. Et là, et le jugement que tu sur lequel tu t'es basé, il vient ni du Coran ni de la Sunna. Donc déjà, ton qiyas, il est bâtil. C'était un exemple pour vous dire que, parce que je t'entends parler du qiyas, et que le qiyas, il est tiré des nusus, en fait. Il est tiré du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas un vrai qiyas sans qu'il retourne au Coran et à la Sunna. Donc le qiyas, on peut rentrer dans an-nas, dans les textes, mais avec ses conditions. Et donc, on ne fait pas de qiyas n'importe comment, hein. Faire attention à ce qu'on dit quand on compare des situations. Ouais, mais t'as vu, si j'avais fait ça, on ferait ça, donc on va le faire, ou je sais pas quoi. Si t'es en train d'en tirer un jugement religieux, mon frère, c'est un qiyas que t'as fait. Et ton qiyas, il faut qu'il rentre dans les shurut. Les shurut, c'est quoi? C'est que le jugement de base, il vient du Coran et de la Sunna ou d'un ijma, et que entre les deux choses que t'es comparé, il y a une illa commune, il y a un lien commun à laquelle est rattaché le jugement. S'il y a pas ça, t'as fait n'importe quoi. Donc, donc je disais, la première chose qu'on regarde, est-ce que c'est les textes ou est-ce que c'est l'ijma? En fait, ils disent, la première chose qu'on regarde, c'est l'ijma. Pourquoi? Parce que l'ijma, en fait, le consensus des musulmans, c'est une preuve, un dalil qati'a, qui n'accepte aucune contradiction. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que les musulmans, ils soient tous d'accord, l'ijma, comme quoi l'eau, quand l'impureté, elle change, soit son odeur, soit son goût, ou soit sa couleur. Les musulmans, ils ont tous été d'accord sur ça dans les premiers siècles. Qui peut contredire ça maintenant? Qui peut dire tous les musulmans se sont trompés, ou etc. C'est impossible. Donc, tu peux même pas avoir de débat avec l'ijma. C'est pour ça qu'on regarde en premier dans l'ijma. Parce que l'ijma, personne ne peut contredire. Alors que le verset du Coran ou la Sunna, il y aura toujours un mu'awil, ou un falsafi, un philosophe, pardon, pour venir dire, ouais, mais non, ton hadith, c'est un hadith ahad, ou le verset, en fait, il faut regarder le batin, il faut pas regarder le zahir, etc. On dit pas qu'il a raison. Bien sûr, il a tort. Mais le mohim, c'est qu'il va pouvoir créer un débat. On va devoir répliquer. Alors que l'ijma, il n'y a pas répliqué. L'ijma, il est comme ça, il est clair, c'est tout. Donc, pour ça, on va regarder l'ijma, on va regarder dans les paroles des ulama. Et comment on connaît l'ijma? Ben, l'ijma, simplement, c'est de l'élément qui le rapporte. Tout simplement. Par exemple, vous allez dans un livre de l'imam Nawawi, et il va dire « Ajma al-Muslimun al-Kada ». C'est-à-dire, les musulmans sont d'accord sur tel point. Maintenant, après, il y a aussi des ulamas que d'autres ulamas ont jugé comme étant un peu légers dans le fait de rapporter l'ijma. Quand l'imam Nawawi ramène un ijma, il faut regarder si les autres ils l'ont suivi. Parce qu'il peut arriver qu'un savant, il se trompe. Ou alors, parce que lui, il juge un ijma, s'il voit la majorité des musulmans, même s'il y a quelques des bonhommes qui contredisent. S'il y en a quelques-uns, il va quand même compter ça ijma. Parce que c'est comme ça, c'est ses conditions pour dire un ijma. Donc il faut connaître ces choses-là. Et parmi les imams de qui vous pouvez tirer beaucoup ijma, Ibn Abdel Barr, par exemple, dans son livre At-Tamhid. Ibn Abdel Barr qui était d'Andalousie, au 4e siècle, qui est un imam d'Ahl Sunna wal Jama'a. Il dit c'est l'imam du Maghreb, l'imam de l'Ouest. Ibn Taymiyyah aussi, Ibn Qayyim, Ibn Hazm dans son livre Al-Muhalla. Il y a beaucoup de mashayikh. Il y a aussi un livre important, c'est un cheikh important dans ça, c'est Ibn al-Mundhir, qui est un ancien, qui cite l'ijma. Il cite par exemple Ajma al-Muslimin ala kada, khlas, c'est devenu la règle. Et la preuve du ijma, c'est quoi? Pourquoi on suit, quand tous les musulmans sont d'accord sur une chose, on suit? Ouais, c'est des. C'est, voilà, c'est le verset. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فنصله نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. Allah il dit celui qui contredit entre qui fait scission entre et qui diverge du messager après que la guidée lui soit venue, lui a été montrée, et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Donc Allah il a mis ici obligation de suivre le chemin des croyants. Donc ça c'est une des preuves desquelles ils ont tiré le fait de suivre al-ijma. Et aussi le hadith qui dit la tajtami ummati ala dalala. C'est-à-dire ma communauté ne peut se réunir sur un égarement. Donc on comprend que quand la communauté se réunit, c'est pas sur un égarement bon, c'est sur une vérité. Donc c'est pour ça que l'ijma c'est une preuve. C'est pour ça qu'ici, dans le cours, c'est pour ça que je vous explique tout ça pour vous montrer pourquoi il ne nous cite pas d'abord des versets du Coran et des hadiths. Non, d'abord on regarde ce qu'ils ont dit les ulama sur l'ijma, et après on va en montrer les preuves dans le Coran et la Sunna. Donc il dit, awalan, ibaratu salafi fi bayani ma'na al-iman shar'an. Donc les expressions et les définitions qu'ont donné les salafs pour montrer la signification du mot iman, qu'on traduit par la foi. Donc là, en fait, on comprend c'est quoi la foi pour un musulman, donc dans la religion. Parce qu'en fait, pourquoi on fait ces cours-là? C'est parce que y a beaucoup de fautes qu'on peut faire. Par exemple, un collègue au boulot, il te dit, moi je crois en Dieu. Tu lui dis, ah bah t'es un croyant, moi je respecte les croyants. Non, dans l'islam, c'est pas un croyant. Ça suffit pas qu'il croit en Dieu. Etc. Beaucoup de choses. Comment tu fais quand ton frère, tu lui dis, faut que tu fasses la salat, et il te dit, c'est bon, la foi c'est dans le cœur, mon grand-père a fait le hajj, c'est pas la peine. Comment tu lui réponds? Si t'as pas étudié tout ça, tu peux pas lui répondre. Etc. Beaucoup de problèmes que tout ça, ça aide à comprendre. Donc, Cheikh, il dit, تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيمان وإن كان معناها واحدا وقد حصر شيخ الإسلام ابن تيمية عبارات السلف بقوله. Donc, il dit les expressions qu'ont employées les anciens pour définir l'Iman, elles sont nombreuses et diverses. Mais quand on les observe bien, en fait, leur signification, elle est unique. Et Cheikh l'Islam, donc, il a dit, pour englober un peu ce qu'ils ont dit les anciens, il a dit, والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إلى أن قال وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع للسنة وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي الجوارح. Donc je traduis ce qu'il a dit Cheikh Islam Taymiyyah. Il dit ce qui a été rapporté des Sahaba et des imams des Tabi'in, donc les Tabi'in sont les élèves des Sahaba, la génération qui n'ont pas rencontré le prophète mais qui ont rencontré les Sahaba, et al-Jumhur, ça veut dire quoi? Ça veut dire la majorité. C'est important de connaître les termes arabes, parce qu'ils vont dire par exemple hada qawl al-Jumhur. Jumhur, c'est le grand groupe, la majorité. Donc il dit la majorité des salafs, et c'est l'école des gens du hadith. Ahlul hadith, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Des fois, ils veulent dire ahlul hadith, ils veulent dire les gens qui s'occupaient beaucoup du hadith à l'époque des anciens. Donc il s'occupait de faire des cercles et il disait avec les chaînes de transmission Haddathana Fulan, Haddathana Fulan, Haddathana Fulan. Et les autres qui s'occupaient d'écrire ça, on les a appelés Ahlul Hadith. Ce sont les gens qui s'occupent du Hadith. Et les autres, par exemple, en opposition aux Fuqaha, les gens du Fiqh, qui s'occupent plus des questions et du Qiyas, etc. Et des fois, on peut dire Ahlul Hadith dans le sens Al-Firqa Al-Najiyah. Comme quand l'imam Ahmed il a dit à propos de Al-Firqa Al-Najiyah, il n'a mis à coup Ahlul Hadith. فمنهم فلا أدري منهم. قال الإمام أحمد il a dit à propos du groupe sauvé, si ce ne sont pas أهل الحديث alors qui sont-ils? Donc des fois les salafs ils emploient أهل الحديث pour dire أهل السنة والجماعة. Pourquoi? Parce que أهل السنة والجماعة ce sont eux qui prennent pour référence et pour base de leur religion le hadith. Donc il dit, je reprends tout parce que ce qui a été rapporté des sahaba et des imams des tabi'in et de la majorité des salafs, et c'est l'école des gens du hadith, et c'est ce qui est rapporté de Ahl Sunnah, c'est que l'iman, donc la foi, est parole et action. Il augmente et il baisse. Il augmente par l'obéissance et il baisse par la désobéissance. Ensuite, il a dit plus loin, et peut-être que certains d'entre eux, c'est-à-dire des salafs, ont dit, et beaucoup parmi les gens qui sont venus après, c'est-à-dire la foi, c'est une parole, ou alors c'est parole, action et intention. Pourquoi ils ont rajouté intention? Tout simplement parce que c'est parmi les conditions d'acceptation. Donc ils ont rajouté, pour préciser. Et d'autres ont dit parole, action, intention et suivi de la sunna. Pourquoi suivi de la sunna? Pourquoi ils ont rajouté suivi de la sunna? Même raison. C'est parce que l'action qu'on dit comme étant de la foi, elle est acceptée que si elle est dans la sunna. Donc ils ont rajouté pour préciser wattiba as-sunna. Et d'autres ont dit, et ça c'est la plus générale et c'est celle qu'il faut retenir, qawlun bil lisan, donc parole avec la langue, wa i'tiqadun bil janan, croyance avec le cœur, wa 'amalun bil arkan, et action avec le corps. Ensuite, ici c'est une autre aussi une petite parenthèse, quand il dit Cheikh, la foi augmente par les obéissances et baisse par la désobéissance. Donc on comprend par là que une action, c'est pas toute action qui fait partie de la foi et par laquelle la foi l'augmente. Il faut que cette action ce soit une obéissance. Et pour qu'elle soit une obéissance, il faut combien de conditions? Donc il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah et qu'elle soit faite conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième condition c'est quoi? C'est d'être musulman. Ça souvent on n'y fait pas attention. Des fois le ulama il la cite pas parce qu'elle est évidente, mais c'est une condition préalable à ces deux conditions, c'est le fait d'être musulman tout simplement, parce qu'Allah il accepte pas des koufars. Donc l'action qui fait augmenter la foi, c'est celle qui remplit ces trois conditions. Donc faut faire attention à partir de là que tout ce qui est fait par simple habitude, ou alors ce qui est fait, par exemple quelqu'un, il n'a pas l'idée de prier pour Allah ni quoi que ce soit, mais il voit son père prier, il vient à côté, il fait comme lui. Est-ce que sa foi elle va augmenter par cette action? Non. Il l'a fait par simple habitude, par simple suivi de son père. Or la religion, est-ce que c'est suivre son père? C'est pas suivre son père. Il faut qu'il la fasse pour Allah, conformément à la sunna. Ou alors ce qui est fait par un non-musulman, mais il le fait sincèrement pour Allah et selon la sunna, un non-musulman il vient à la mosquée, il dit je veux faire la prière avec toi, pour Allah. Et il a fait, et mashallah, il lève les mains, il fait tout, il fait jalsat istiraha, tout. Même il sort le khilaf gars. Est-ce qu'elle a accepté sa salade? Est-ce que sa foi l'augmente? Non, parce qu'il n'est pas musulman. Autre exemple, al-bida, donc sur les innovations, elles ne seront pas acceptées, la foi elle ne peut pas augmenter, etc. Maintenant, quelqu'un il vient, il me dit, moi j'ai fait khuruj fi sabilillah. Ma foi, je suis revenu de 4 mois, j'étais au top. Salat filay, tout. Je faisais ikram et djiran, je faisais tout, ta'at et walidain, j'étais bien. Et toi, tu me dis c'est une bid'a. La preuve que c'est une sunna, je suis revenu, ma foi, elle a augmenté. Qu'est-ce qu'on dit? Non, ça, on lui a déjà dit avant. Mais lui, en réponse, il te dit ça. Il dit la définition de la foi, je suis venu au cours des salafis, ils ont dit, c'est elle baisse, elle augmente avec l'obéissance. Donc ça prouve que mon khourouj c'est une obéissance puisque ma foi elle a augmenté. Si c'était une désobéissance, parce que la bid'a c'est une désobéissance ou pas. Voilà, donc c'est pas une bid'a. Moufki. Mais si vous réfléchissez, des fois pour comprendre certaines questions, il faut avoir l'esprit lointain, il faut ouvrir son esprit. Il faut faire une différence entre la foi, qui augmente et qui baisse par les actes, et l'état psychologique de la personne. Prends n'importe quel non-musulman qui travaille 7 heures par jour à Renault et est toujours au même poste dans sa chaîne. Il fait les sièges de la Mégane. Et quand il rentre, il s'engueule avec madame, et, etc. Et ses enfants, ils rentrent du boulot, ils font la pagaille à la maison. Prends-le, mets-le aux Seychelles pendant 2 semaines, sans sa femme et ses enfants, 3 repas par jour, tout compris, gratuit, tu lui payes. Quand il va revenir, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, je me sens bien. Mais trop bien. L'autre, dans son vocabulaire à lui, comment il dit? Il croit que c'est ça la foi. Il croit que la foi c'est le bonheur et le malheur. La foi c'est pas je me sens bien, je me sens pas bien. Tu peux être au top de la foi et avoir un moment de tristesse. Ça n'a pas de rapport. Tu peux être très bas dans ta foi. Il y en a pas qui sont dans Zina, dans le vol, ils font des braquages. Ils sont bien. Ils sont bien. Puis il y a plein d'argent, il y a des femmes, il y a tout ce qu'il faut. Alors là, il est en train de l'égarer, lui il s'en rend pas compte. Il est bien. Simplement, lui, c'est celui qui a fait le khourouj là. C'est un vocabulaire qu'il a. Il croit que la foi, c'est un état d'esprit. Donc, il revient, il dit, ma foi, elle a augmenté. Tu lui dis, non, dis pas ta foi a augmenté. Dis, je me sens bien. Psychologiquement, je suis au top. Tu dis, et tu serais parti aux Seychelles, au Club Med, ça serait la même chose. Là, tu ferais Riyamlé, tu ferais tout. Parce que tu serais bien dans ta tête. Donc, faut faire la différence entre l'état psychologique de la personne, comment il sent la tristesse et tout, et la foi. C'est pas la même chose. Tu peux être au top de la foi, à l'inverse, et être triste. Quelqu'un, il est au top de la foi, mais il a une grosse moussiba. Même il l'accepte, etc., mais il va être triste, parce que c'est une tristesse naturelle. Est-ce qu'on va dire sa foi à la baisser? Sa foi à la baisser, alors qu'il l'accepte, il dit, qadar Allah, on a cha fa'a. Tu me dis sa foi à la baisser, et tu le vois triste, il pleure. Sa foi à la pas baisser, subhanallah. Il a dit la sunna, il a accepté. Mais tristesse naturelle. Voilà, comme Ya'qub dans le Coran. C'est un habit qui a vécu un état de tristesse. Alors qu'en plus, à chaque fois, à aucun moment, il l'a fait aux créatures. Ça, c'est parmi les signes de l'acceptation du destin. C'est que tu te plains pas aux créatures, mais tu te plains à Allah. Et Ya'qub, à aucun moment, il s'est plaint aux créatures, mais il se plaignait toujours à Allah. Et pourtant, il était quand même triste. Il pleurait. Pourquoi? Tristesse naturelle. L'être humain, il était fait comme ça. Il lui arrive un malheur, il est triste. Même si tu acceptes le destin, mais il t'arrive d'être triste. Est-ce qu'on va dire, Ya'qub a été naqisul iman, astaghfirullah, mu'minun naqisul iman, etc. Non. Ou alors, il se plaignait, il avait pas la foi. Non. Ensuite, une autre parole de Abdelrazzaq As-San'ani. Donc, il vivait, si je me trompe pas, au 2e siècle de l'Égypte. Et c'était un muhadith du Yémen. Et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Musannaf. Et c'est un livre important pour avoir les fatawas des sahaba dans le fiqh. C'est un livre qui a à peu près 22 000 hadiths. Et il y a 3 livres, retenez. Al-Musannaf de Abdelrazzaq As-San'ani, celui-là. Al-Musannaf aussi, le même nom, de Ibn Abi Shayba, qui est aussi dans l'époque des salafs. Et Al-Sunan Al-Kubra de l'imam Al-Bayhaqi. Ça, c'est plus connu. Dans le Boulour al-Maram, vous lisez, rapporté par Al-Bayhaqi, tout ça. Les trois, c'est des livres avec beaucoup plus de 20 000 hadiths. Et c'est des livres importants pour avoir des fatawas, des sahaba et des tabi'in. Mais ils ne sont pas arrêtés au fait. Pourquoi? Parce que, en fait, à part Sunan al-Bayhaqi, c'est des livres des premiers siècles. Et au début, les salafs, quand le hadith, c'est les premières générations qui ont rapporté le hadith, ils mélangeaient dans leurs livres les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les paroles et les actions et les fatawas des sahaba, et même les fatawas des tabi'in. C'est pour ça que si vous lisez le Muwatta Imam Malik, vous trouvez ces trois-là. C'est la génération d'après, comme Al-Bukhari, Muslim, etc., qui ont mis que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans leur livre. Donc, pour trouver ce qu'ils ont dit, même si Al-Bukhari, il a ramené des fatawas aussi, des sahaba. Donc, pour trouver ce qu'il y a, les sahaba, c'est ça, les 3 grands livres. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui recherchent dans les athars des sahaba. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, cet imam? Il a dit, j'ai entendu parmi ceux que j'ai connus, parmi nos machaïrs et nos compagnons. Donc les machaïrs, c'est celui dont il a appris, ses compagnons, c'est ceux qui étaient avec lui pour apprendre. Donc ici, Soufiane al-Thawri. Soufiane al-Thawri, qui était en Irak. Wa Malik. Donc Malik ibn Anas, imam Darul Hijra, c'était l'imam imam Malik, que vous connaissez tous, à Médine. Wa Ubaydullah ibn Omar. Là, j'avoue, je connais pas. Wa al-Awza'i. Al-Awza'i, c'était l'imam du Sham, donc Syrie, Palestine et Liban. Pardon. Ubaydullah ibn Omar. Ensuite, Al-Awza'i, donc un imam du Sham. Al-Awza'i, c'est comme l'imam Malik, etc. Il faut pas croire qu'il y avait quatre imams dans l'islam. Les imams comme eux, il y en a eu plein. Simplement, pourquoi les quatre imams ils sont plus connus? Qui c'est qui connaît ça, la réponse? Voilà, c'est parce que c'est, on en a fait une école. Ils avaient beaucoup d'élèves qui ont récolté leur fatwa et qui les ont écrites et ça a fait des écoles. C'est pour ça qu'ils ont été plus connus. Mais sinon, à leur époque, il y avait beaucoup d'imams qui étaient au même niveau qu'eux. Par exemple, il y a Al-Layth ibn Sa'd, l'imam d'Égypte, qui était en Égypte, à peu près la même époque. L'imam Shafi'i, il a dit de lui, Al-Layth afqah min Malik. C'est-à-dire, Al-Layth a plus de fer que Malik. Alors que Malik, on sait qui c'est l'imam des musulmans. Et pourtant, il n'y a pas maintenant un madhab qui s'appelle Al-Madhab Al-Laythi. Il y a le madhab Al-Maliki, et il n'y a pas le madhab Al-Laythi. Pourquoi? Parce que les compagnons de Al-Layth ibn Sa'd, ils ont moins gardé ces fatwas. Wa Ma'mar ibn Rashid, wa ibn Jurayj. Ma'mar ibn Rashid ibn Jurayj, c'est à Mecca. Wa Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, c'est un des grands imams du hadith. Yaqulum, donc ils disent, tous ceux-là ils disent. Inna l'imana qawlun wa amalun yazid wa yanqus. Donc l'iman, c'est parole et acte, elle baisse et elle augmente. Wa hadha qawlu ibn Mas'ud wa Hudhayfa. Et lui, Abdelrazzaq al-San'ani, il dit que ça, c'est l'opinion de Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Hudhayfa, donc Hudhayfa ibn al-Yaman, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-Nakha'i. Al-Nakha'i, c'est qui? C'est Ibrahim al-Nakha'i. C'était parmi les tabi'in en Irak. Wa al-Hasan al-Basri. Je pense que vous connaissez, c'était un des tabi'in en Irak. Wa Ata, wa Taous, ça sont des tabi'in. Wa Mujahid, wa Abdullah ibn al-Mubarak. Donc là, sa parole, elle s'arrête ici. Donc regardez de qui il a cité cette parole. D'un grand nombre de salaf. Ensuite, le shikhi dit, Qala ibn Hajar fil Fath, wa kada naqalahu Abu al-Qasim al-Lakai fi kitab al-Sunnati an al-Shafi'i. Al-Imam Muhammad ibn Idris, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawayh, wa Abi Ubaida, wa ghayrihim min al-A'imma. Ibn Hajar, dans Fath al-Bari. Fath al-Bari, c'est le meilleur livre pour l'interprétation de Sahih al-Bukhari, qui est écrit par Ibn Hajar, al-Asqalani, celui qui a fait Bulugh al-Maram. Si ce n'est que dans son livre, pour la formation, il y a des erreurs de l'école Ash'ariya. Parce que Ibn Hajar, on dit qu'il fait partie al-Sunnah wa Jama'a, mais le contexte dans lequel il vivait, c'était la Aqida Ash'ariya. Et donc il n'a pas pris toute la Aqida Ash'ariya, il n'était pas Ash'ari, il était salafi, mais il a eu des erreurs qui vont dans le sens de l'école Ash'arite, comme dans l'interprétation des qualités d'Allah, etc. At-Ta'wil. Lui, il dit, Abu Qasim al-Lakai, dans son livre As-Sunnah, a rapporté cela, donc tout ce qu'on vient de citer, de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, eux vous connaissez, l'imam Ishaq ibn Rahawai, lui vous connaissez moins, je pense, c'est un imam dans le Khorasan, ça c'est au-dessus de l'Irak, etc., vers l'Iran. Et l'imam Ahmed, et c'est important de le connaître, l'imam Ahmed, il a dit de lui, Ishaq ibn Rahawai, imam min a'immati muslimin. C'est un des imams, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Ishaq ibn Rahawai. Parce que des fois, dans des livres, vous pouvez avoir son avis. Il va vous dire, l'imam Malik a dit, l'imam Shafi'i a dit, et il va dire, Ishaq a dit. Quand vous lisez Ishaq, c'est lui, c'est Ishaq ibn Rahawi. Et c'était un imam du hadith, un des grands imams du hadith. Et l'imam Abu Ubaid, il s'appelle Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, donc c'est un des imams du hadith aussi, et d'autres parmi les imams. Donc, dans quel livre on trouve ça? Non. Non, dans Fath al-Bari, il dit que Abu al-Qasim al-Lakai a cité dans son livre tout ça. Et c'est quoi, c'est qui Abul Qasim al-Akari? C'est quelqu'un qui a écrit, c'est pas dans l'époque des salafs, il a écrit un livre, ça s'appelle Usul et I'tiqad Ahl Sunna wa Jama'a, en plusieurs mujallad. Et en fait, c'est quoi? C'est comme un livre de hadith, mais que sur la aqidah. Et ça concerne pas que le prophète. Il y a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des sahabas, des tabi'in et des imams, comme Malik, Ahmed et tout. Et avec des chaînes de transmission. C'est-à-dire avec des chaînes de transmission, haddathana fulan, haddathana fulan, il vous dit l'imam Malik a dit, et c'est que des choses qui concernent la aqidah d'Ahl Sunnah wa Jama'a. Par exemple, ça va parler de est-ce que le Coran est créé ou incréé? Est-ce que Allah est tout-dessus de son trône? Etc. Toutes ces choses-là, il montre chapitre par chapitre le destin. Et en fait, c'est pour répliquer à toutes les sectes qui étaient déviées dans ces sujets-là. Et il ramène avec des chaînes de transmission. Il n'y a pas que lui qui a fait ça. Des livres comme ça, il y en a plus d'une dizaine. Et lui, donc dedans, il a un chapitre sur l'Iman. Et si vous, quelqu'un d'entre vous, il est arabe, il va dans ce livre, il prend un chapitre à l'Iman et il va voir tout ce que je vous ai expliqué. Mais pas de Ibn Taymiyyah, mais encore avant. Tous les paroles, les Kalam Malik, Ibn Mas'ud, etc. Et aussi, il a ramené, parmi ce qu'il a ramené, il a ramené la parole de l'imam l'imam Al-Bukhari, qui a dit, لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc l'imam Bukhari il a dit j'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les ulama, parce qu'à l'époque les ulama c'était pas un ou deux, c'était des milliers dans chaque pays musulman. Il dit j'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les ulama dans les différents territoires et je n'en ai pas vu un d'entre eux qui diverge sur le fait que la foi, c'est parole et action, elle augmente et elle baisse. Donc en fait, là, c'est quoi qui ramène l'imam Bukhari en vérité? C'est quoi qui Ijma. Il est en train de nous raconter ça, on appelle ça Hikayat Ijma. Il est en train, on peut dire, l'imam Bukhari a raconté l'Ijma des musulmans sur le fait que.
وقد أطنب ابن أبي حاتم واللألكائي في ذكر أقوال من يدور عليه الإجماع من أئمة التابعين في ذلك.
Donc en fait, Ibn Abi Hatim al-Lakai, beaucoup d'autres, tous ceux qui ont écrit des livres sur avec des chaînes de transmission sur la Aqidah, ils ont cité les paroles des salafs sur tout ce que je suis en train de vous dire. Donc vous pouvez retourner. Sauf, on va y venir après, Abu Hanifa. Parce qu'Abu Hanifa, dans ce sujet, c'est pas. C'est un autre madhhab. Qui est bien sûr contradictoire au madhhab de Ahl Sunnah. C'est pas un, y a pas de khilaf là-dedans. C'est une erreur. قال ابن كثير رحمه الله. Donc en vérité là, quand vous regardez comment il fait Cheikh, il nous a cité Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah il est quel madhab à la base? C'est un Hanbali. Il est de l'école Hanbalite. À la base, après, il a lâché son école en vérité, mais de formation, on va dire, il est Hanbali. Après, il commence à nous citer Ibn Hajar, et là, il va nous citer Ibn Kathir. Et eux, ils sont quoi? Il les a mis ensemble. Ils sont de l'école Shafi'i. Et après, il va nous citer Ibn Abd al-Barr. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le professeur par là, en fait? Il l'a pas dit lui. Mais qu'est-ce qu'on comprend? En fait, il veut vous montrer que chaque école, elle a un imam qui dit ce qu'on est en train de lui dire. Donc, quand tu vas dans une mosquée, et puis un vieux, il te dit, voilà, imam fil qalb. Non, non, je fais pas là-bas, parce que imam fil qalb et tout, ça sert à rien. Tout ce que vous faites là, c'est n'importe quoi. Tu lui dis, toi, t'as un malikite. Il a dit, ah ouais, ça pourrait être malikite, machin, malikite. Un vrai. Tu lui dis, eh ben, Ibn Abdelbar el-Maliki, il a dit, et tu lui cites. C'est pour ça que c'est utile de connaître tout ça. Donc, il dit, Ibn Kathir, j'ai perdu le truc. Ouais, pardon. Ibn Kathir, il dit, dans son tafsir, et le tafsir d'Ibn Kathir, c'est le meilleur livre d'interprétation du Coran qui a été écrit. Pourquoi? La première interprétation du Coran qui a été écrite, c'est, hein? Al-Mujarir al-Tabari. Donc, c'était, au 4e siècle. C'était assez proche du début de l'islam. Mais il est un peu dur. C'est un grand livre. Et ça s'appelle Jami' al-Bayan fi tafsiri ayy al-Qur'an. Et c'est un grand livre. Et c'est dur, pourquoi? Parce que c'est que pratiquement des chaînes de transmission. Et si tu sais pas différencier du vrai du faux, bah, ça te sert pratiquement à rien. Et Ibn Kathir, il a repris ce qui est bon là-dedans. Et en plus, il a rajouté les bonnes interprétations. Et l'avantage qu'il a, Ibn Kathir, par rapport à tous les autres Tafsir, c'est quoi? Premièrement, lui, ce qui est bien, c'est qu'il fait l'interprétation du Coran par le Coran. Et c'est ça le tafsir. Après, il fait l'interprétation du Coran par le hadith. Ibn Kathir, c'est un muhadith, il s'y connaît. Après, il fait l'interprétation du Coran par les paroles des sahaba. Après, il fait l'interprétation du Coran par les paroles des tabi'in. Et après, par l'interprétation linguistique, etc. Et il ramène beaucoup de hadiths. Et c'est quoi l'avantage qu'il a par rapport à d'autres tafsirs? À part le fait que dans la voie qu'il emprunte, il est bien. Pourquoi les ulama ils parlent tant d'Ibn Kathir et son tafsir? En fait, la raison c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de livres de tafsir qui sont très chers, dans le sens ils sont très importants, ils ont beaucoup de valeur, mais leurs auteurs ils avaient des problèmes dans la aqida, parce qu'ils sont venus un peu après dans l'époque musulmane, et beaucoup d'entre eux ils étaient influencés par la aqida ash'ariya. Donc vous prenez par Al-Qurtubi, très connu comme tafsir. Mais il y aura des erreurs dans les noms et les attributs. Tafsir Al-Jalalayn, le petit tafsir qui recommande pour les débutants, il y aura des erreurs dedans, etc. Beaucoup de tafsir. Alors qu'Ibn Kathir, il n'y aura pas d'erreur de Aqidah dedans. Mais Ibn Kathir aussi, c'est pas facile à lire parce que c'est pareil. Il ramène les hadiths avec des chaînes de transmission. Et toi, tu sais pas, tant qu'il est pas dans le Bukhari muslim, tu sais pas s'il est bon ou pas. Et il ramène aussi beaucoup d'Israéliyat, les récits juifs. Et les récits juifs, on sait pas non plus ce qui est bon dedans, et des fois c'est un peu affabulateur. Par exemple, il y a une histoire où il ramène que il y avait une femme avec les deux anges qui sont venus apprendre la sorcellerie aux gens. Comme quoi, c'était deux anges, ils sont venus parce qu'ils ont défié Allah, ils ont dit nous, si on va sur terre, on fera pas comme les êtres humains. Et donc Allah il les a mis à l'épreuve avec une femme, elle les a tentés. Après ils sont tombés dans le péché. Et après la femme, elle a demandé laissez-moi voler jusqu'au ciel. Après elle est arrivée au ciel, elle s'était transformée en étoile. Et Abdullah ibn Omar, quand il a voyé l'étoile, il a maudissé. Bon, ça contredit un peu la aqida et même la raison. Mais les chaînes de transmission, Ibn Kathir lui-même à la fin, il dit y a rien de fort dans les chaînes de transmission. Et c'est plutôt rapporté par les juifs, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on fait? On veut lire du tafsir. Soit vous prenez les cours des machaïrs, ça c'est le mieux à faire, vous écoutez d'Achir. Ou alors vous prenez tafsir al-Sa'di, qui a été écrit à notre époque, qui est facile. Mais le problème, tafsir al-Sa'di, il ne va pas citer beaucoup de hadiths. Et vous voulez tafsir avec des hadiths. Donc il y a un livre qui a été écrit par Ahmed Shakir. C'est un muhaddith égyptien, qui est l'époque de Sheikh Al-Albani, tout ça, et Salafi, et il a écrit Umdatu al-Tafsir, ala Tafsir ibn Kathir, quelque chose comme Tahdib Tafsir ibn Kathir. Mouhim, ça s'appelle Umdatu al-Tafsir. Pour les arabophones, notez-le, ça c'est important si vous savez pas. C'est un livre, il n'est pas beaucoup plus petit qu'Ibn Kathir, mais il ramène le Tafsir du Coran avec le Coran. Au niveau des hadiths, il est-ce que Bukhari muslim, est-ce que lui, il juge authentique, et c'est un muhaddith. Après, il laisse quelques paroles des salafs, il les ramène pas toutes, parce que des fois, les paroles des salafs, dans le tafsir, vous avez l'impression qu'elles sont toutes différentes, mais quand vous revenez à la base, elles veulent toutes dire la même chose. Parce que beaucoup, les salafs, ils donnent l'interprétation par exemple. Donc l'exemple, il va être différent, mais en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est la même chose. Donc lui, il en cite que quelques-uns. Et après, au niveau de l'interprétation du verset en lui-même, en tant qu'explication, il ramène l'explication d'Ibn Kathir, mais avec peut-être des fois une expression un peu plus simple, et il enlève tous les récits juifs. Donc vous lisez ce livre de A à Z et vous êtes tranquille. Donc qu'est-ce qu'il a dit Ibn Kathir dans ce tafsir? Il dit وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. Il dit que plus d'un salaf et plus d'un des imams des salaf ont raconté le consensus des musulmans au sujet de l'iman, parmi eux al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Donc là c'est pas Ibn Kathir qui raconte l'ijma. Il raconte que Ahmed, al-Shafi'i et Abu Ubaid, donc qui étaient à l'époque dans les premiers siècles, eux ils racontaient le consensus. قال شيخ الإسلام وأجمع السلف وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc ça c'est Cheikh Islam qui cite le consensus et après il cite le même d'Ibn al-Qayyim. Après, on en vient à la parole qu'il faut retenir pour nos les pères et les grands-pères. Ça, c'est وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ. Donc, Ibn Abd al-Barr, c'était l'imam, imam al-Maghrib, c'est-à-dire l'imam de l'ouest de du monde musulman. Il était en Andalousie, à Cordoba, donc à Cordoba, en Espagne. Et donc, c'était un des imams de Ahl al-Hadith, un grand muhaddith, au 4e siècle de l'Hégire. Et il a un livre qui est important, ça s'appelle At-Tamhid, c'est l'explication du Muwatta de l'imam Malik. Et dans ce livre, il a dit أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. Donc qu'est-ce qu'il a dit cet imam malikite, donc à retenir pour les imams des mosquées, etc. Maintenant, je dis pas, on arrive aux imams des mosquées, aux grands-pères, on est des salafis, t'as rien compris, t'es un vieux grand-père, tu connais rien. C'est pas comme ça. C'est avec hikmah, avec sagesse. Et il faut les prendre sur leur terrain. Comme ils aiment bien l'imam Malik, et ils aiment bien le fait d'être maliki. Et nous, on a un imam, l'imam des malikites, qui a dit que c'est l'ijma sur ça, et que lui, tous les jours, il te prend la tête en te disant pourquoi tu fais ça, pourquoi tu laisses pousser ta barbe, pourquoi toujours à la mosquée, pourquoi ta femme dirait le hijab et tout, le chouma. Toujours il est en train de t'embêter, et son dali c'est toujours quoi? La foi c'est dans le cœur. Et tes frères et sœurs la même chose. Chaque fois que tu leur dis viens avec moi à la mosquée, et ma sœur il faut que tu mettes le hijab, on est des musulmans. À chaque fois que tu leur dis un truc, mais la foi c'est dans le cœur. T'es invité chez des gens, la femme, elle te tend la main. Smahili, khalti, je peux pas être fou. Ah, la foi, c'est dans le cœur. Tous leurs dali, c'est la foi, c'est dans le cœur. Et tous, ils aiment bien l'imam Malik. Donc, ramène-lui. J'ai appris, ya khalti, ya ami, ya akhi, Ibn Abd al-Barr. Tu lui dis, Ibn Abd al-Barr, c'est l'imam des Maliki. Tu lui dis, ça, c'est Ta'bikri, c'est pas Al Jazeera. Tu dis, ça, c'est vieux, ça. C'est avant. C'était un imam et tout. Et c'était, tu dis, fil maghreb. Maghreb, ça veut dire l'ouest. Tu lui dis, lui, il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Ibn Abd al-Barr? Il dit, ahlul fiqh, donc les gens du fiqh. C'est-à-dire les gens de, le fiqh, c'est la jurisprudence, etc. Et les gens du hadith sont tous d'accord sur le fait que la foi, donc toujours pareil, la foi, c'est parole, action. Et lui, il rajoute, et il n'y a pas d'action sans intention. Et la foi chez eux, c'est-à-dire chez les salafs, elle augmente avec les obéissances et elle baisse avec la désobéissance. وَالطَّاعَاتْ كُلُّهَا عِنْدَهُمْ إِيمَانٍ. Et les obéissances font toute partie de la foi. Donc on a bien dit obéissance, pas n'importe quelle action, avec les conditions qu'on a citées tout à l'heure. Et l'imam il dit, sauf ce qui a été cité selon Abu Hanifa et ses compagnons, donc Abu Hanifa, qui est né en 80 après l'Égypte, qui est l'imam, un imam de l'Irak, qui fait partie de la génération après les Tabi'in, et donc qui est l'imam du rite Hanafite, qui est le rite, l'école la plus répandue dans le monde actuellement. En Turquie, en Asie, dans les pays arabes, en Égypte, en Syrie, Afrique. Je sais qu'Afrique de l'Ouest c'est Maliki, Afrique de l'Est c'est Shafi'ite. Bon, je connais l'Égypte, il y a beaucoup de Hanafites, Oshem, Pakistan, l'Inde, la Chine, la Turquie, la Syrie, tout ça, c'est des Hanafites. Ils suivent le rite, donc les fatawas de l'imam Abu Hanifa. Et donc lui, cet imam, et ses compagnons, donc Allah, ils disent que les actes d'adoration, les obéissances, elles s'appellent pas iman. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eux, ils appellent pas, ils disent que les actes, ça rentre pas dans le mot iman. Donc, contrairement à ce que nous, on vient d'affirmer selon Ahl Sunnah wa Jama'a et le consensus. Eux, ils disent que les actions, ça s'appelle pas iman. L'iman, ça concerne pas les actions. Ils disent que l'iman, ça concerne que la shahada, avec laquelle tu rentres dans l'islam, et le tasdiq, Donc on a vu tout à l'heure, c'est quoi tasdik, le fait de croire que tu vas dans le cœur. Il dit, c'est ça l'iman. Et le reste, ça s'appelle l'islam. Et ben, on n'aura pas le temps. Mais Inch'Allah, la semaine prochaine, puisqu'on n'y arrivera pas. En plus, ma gorge, ça y est. Mais, on verra la réplique à ce matin. Thalithan. بيان مراد السلف بقولهم الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شيخ maintenant on va il explique qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand on dit la foi c'est parole action elle augmente elle baisse etc. Donc il dit قولهم الإيمان قول باللسان أي أن كل الطاعات التي تقال باللسان فهي من الإيمان فعلها يسمى إيمانا ويزيد في الإيمان. C'est-à-dire quand on dit l'iman c'est parole, c'est la parole avec la langue. C'est-à-dire que toutes les obéissances, et non pas toutes les actions, faites bien attention à la différence, toutes les obéissances, les adorations, qui sont dites avec la langue, elles font partie de l'iman. Le fait de les faire, ça s'appelle iman, et quand tu les fais, le iman, il augmente. C'est tout ça que ça veut dire. Donc elles font partie de l'iman, elles s'appellent iman. On peut dire, par exemple, le fait de lire la lecture du Coran, ça c'est du iman. On peut le dire. Et, le iman de l'être humain va augmenter avec cet acte de la langue. C'est ça que ça veut dire. Donc après, il cite un exemple. Comme le rappel d'Allah, la lecture du Coran, le fait d'appeler Allah, le fait de se conseiller la vérité, le fait de faire l'amr bin ma'ruf, c'est-à-dire le commander le bien, etc. Et les paroles se divisent en trois choses. Al-awwal, lazimu lin'iqadi, لأصل الإيمان وهو التلفظ بالشهادتين عقدا. Les paroles elles se divisent en trois. Il y a des paroles qui sont obligatoires à dire pour que l'iman y soit valable. C'est quoi? Tout simplement shahadatayn. Bien sûr avec ses conditions. Celui qui viendra dire shahadatayn sans savoir ce que ça veut dire. Je dis pas sans savoir ce que ça veut dire dans le sens il connaît pas que il faut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Il sait pas dire ça. Il a pas étudié. Mais il sait ce que ça veut dire dans le sens, il sait que il y a Allah, le créateur, il faut l'adorer lui, et en dehors de lui, il faut pas adorer. S'il connaît pas cette signification minimale, il rentre pas dans l'islam, en disant shahada. Parce que, on a vu, vous avez vu dans d'autres cours, Inch'Allah, que la ilaha illallah, il a des conditions. Parmi ces conditions, il y a quoi? L'ilm, la science. Donc celui qui dit la ilaha illallah, il a aucune idée de ce que ça veut dire. Ou alors il croit que ça veut dire qu'il n'y a qu'un créateur, mais t'as le droit d'adorer autre qu'Allah. Il rentre pas dans l'islam. Maintenant, nous, est-ce qu'on le sait, s'il le sait ou pas? Il vient et me dit, la ilaha illallah. Est-ce que je le sais s'il sait ou pas? Je le sais pas. Donc, j'accepte son islam. Mais si je sais qu'il ne sait pas, il me dit, moi, je dis la ilaha illallah, en croyant que ça veut dire qu'il n'y a qu'un créateur, mais que j'ai le droit d'adorer autre qu'Allah. Est-ce que je le considère musulman avec son la ilaha illallah? Non, il a pas les conditions. La ilaha illallah, c'est pas une phrase à répéter. Ça a une signification. Ou alors, s'il vient à dire la ilaha illallah et à le contredire, d'un acte qui montre qu'en fait il ne le connaissait pas, donc là il sort de l'islam. Donc, là, dans les paroles, il y a une partie des paroles sans laquelle l'iman il n'est pas valable, qui est shahadatayn. Ensuite, la deuxième partie des paroles sont les paroles qui sont obligatoires, sans laquelle l'iman ne sera pas complet. La personne elle sera musulmane, mais elle ne sera pas un croyant qui est à la fois obligatoire et complète. Donc, par exemple, le fait de lire la Fatiha dans la Salat, toutes les paroles qui sont obligatoires. Et des paroles qui sont non obligatoires et préférables, comme le fait de lire le Coran tous les jours, le fait de faire le dhikr, le fait de conseiller, etc. Et aussi le fait de conseiller ou faire da'wah, ça pourrait être obligatoire dans certaines, selon les situations. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit la foi c'est des actes? Donc, comme pour les paroles, c'est que toutes les obéissances qui sont faites avec les actes, elles font partie de l'iman. Le fait de les faire, ça s'appelle iman. Et l'iman, il augmente quand on les fait. Comme la salat, le somme, le hajj, le mashi et la salat, le fait d'aller à la salat, le jihad, etc. Après, le fait, quand ils disent, la foi aussi, c'est une croyance dans le cœur, un dogme dans le cœur, c'est le fait de croire, ça veut dire que toutes les adorations qui sont faites par le cœur, la même chose. Elles font partie de la foi, elles s'appellent, on peut les appeler foi, donc iman, et la foi elle augmente par elle. comme, c'est quoi la plus grande adoration du cœur? C'est quoi la plus grande adoration du cœur? Al-mahabba. L'amour d'Allah, c'est la plus grande adoration. Donc la crainte, l'espoir, etc. Comme aussi le shir ici, il cite al-iqrar. Donc le fait, quand on a affirmé au fond la vérité de l'islam et qu'on en est sûr, ça aussi c'est une adoration. Aussi al-tawakkul, le fait de faire confiance à Allah, etc. Fa'indahum, quand j'arrête à 10h pile, inshallah. فعندهم الإيمان أبعاد وأجزاء وشعب إذا جاء بها المؤمن وكملها كمل إيمانه وإذا أخل بها أو ترك بعضها فإنه ينقص إيمانه وقد يزول إذا كان ما تركه يوجب الكفر. Donc Cheikh dit, donc pour Ahl Sunnah wa Jama'a, l'Iman c'est pas une seule chose, c'est pas un bloc, c'est des branches, c'est des différentes parties, etc. L'Iman a différentes parties, différentes branches. Et lorsque le croyant y vient avec elle de façon complète, c'est-à-dire Kamilan, donc il est un croyant complet et sa foi elle est complète. C'est quoi qu'on appelle la foi complète? L'Iman ou le Kamil? En fait, c'est l'Iman ou le Wajib. C'est la foi obligatoire. C'est la foi qui, lorsque tu te présentes avec elle au jour du jugement, tu rentres au paradis sans passer par l'enfer. C'est ça que les lama ils appellent al-iman al-kamil. Et quand Allah, des fois, il renie al-iman dans le Coran, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nie le mot iman, ou il enlève le mot iman de quelqu'un dans le hadith, c'est l'iman al-kamil qu'il faut comprendre. Par exemple, Allah il dit en Coran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الله يدي في سورة الأنفال les croyants sont seulement ceux qui lorsque le livre d'Allah est récité leur cœur tremble, lorsqu'on leur lit les versets d'Allah ça fait augmenter leur foi et qui mettent confiance en Allah, ceux qui accomplissent la salat et qui payent la zakat et qui dépensent de ce que nous leur avons donné, ceux-là sont les vrais croyants. Est-ce que ça veut dire que celui qui fait pas ces choses-là, c'est un kafir? Allah, il a renié que c'était d'un croyant. Il a dit, innamal mu'minun. C'est-à-dire que seulement ceux-là sont des croyants. Donc, ça veut dire que ceux qui ne font pas ne sont pas croyants. Dans quel sens? Dans le sens croyant complet. Qui a la foi obligatoire et complète. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera croyant. On ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que ça veut dire que tant que t'aimes pas pour ton frère ce qu'il aime pour toi-même, t'es pas un croyant dans le sens, t'es pas un musulman, t'es un kafir, quoi? C'est pas ça le sens. Le sens c'est, nul ne sera croyant complet. Comme on dit en français, par exemple, on dit un vrai croyant. Les français ils disent ça, par exemple, toi t'es pas un vrai croyant. Genre un croyant complet. C'est ça que ça veut dire le hadith. Donc il sera musulman. Mais il sera pas mu'min mutlaq. Ça veut dire, on peut pas l'appeler mu'min. Parce que mu'min, si on dit comme ça mu'min, ça sous-entend mu'min kamilul iman. On l'appellera muslim parce que c'est un musulman. Ou alors, si on veut l'appeler mu'min, on dira mu'minu naqisul iman. Un croyant qui a la foi, qui a un manque dans sa foi. Ou alors, les ulama, ils disent, mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati. C'est un croyant pour le iman qu'il porte et un fasiq pour le péché qu'il fait. Et de là aussi, vous comprenez, ça c'est des parenthèses, parce que c'est important, par rapport au takfir, etc., l'irja et tout. Dans le hadith qui dit, la yazni, zani hina yazni wa huwa mu'min. C'est-à-dire, le fornicateur, au moment où il fait son acte, il n'est pas croyant. Donc, on comprend, avec la règle que je vais vous citer, que ça veut dire, il n'a pas la foi complète. Ça veut dire, s'il meurt dans cet état, il se présente avec Allah, avec une foi, naqisa, qui a un manque. Donc si Allah il peut le châtier pour le purifier ou lui pardonner, alors que s'il n'avait pas commis cet acte et que dans le reste des obligations il était venu avec ce qu'il fallait, il rentrerait directement au paradis. Donc c'est ça qu'il faut. Et Ibn Abbas il a interprété le hadith, il a dit que l'Iman il se met au-dessus de lui. Ça ne veut pas dire tout l'Iman il reste plus rien, c'est un kafir. Ça veut dire la foi complète. Et il lui reste un peu de foi avec laquelle il est musulman. Et ensuite, donc, je finis juste cette phrase. Cheikh dit, et si le croyant, il néglige certaines des branches de la foi, ou il en laisse certaines, alors sa foi, elle va baisser, et elle peut carrément s'annuler s'il laisse des choses dont le délaissement oblige la mécréance. C'est-à-dire que, en fait, sa foi, elle va baisser selon l'importance de ce qu'il va délaisser comme obligation ou de ce qu'il va faire comme péché. Et la foi, elle peut carrément s'annuler. Parce que dans les désobéissances, il y en a qui annulent l'islam, comme le fait d'invoquer autre qu'Allah. C'est une désobéissance qui annule la foi. Sa foi, elle va pas seulement baisser, mais elle va s'annuler. Par rapport aux paroles de la langue, le fait d'insulter Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une désobéissance qui annule la foi. Et dans les actes, le fait de, par exemple, quelqu'un qui viendrait à piétiner le mushaf ou quelque chose comme ça. J'entends pas de ronfleur encore. Faut arrêter ou pas? Bon, juste, je finis juste, parce qu'après, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la foi augmente. Là, il est encore en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la foi, comporte les actes. Donc, je finis à deux lignes. Il dit que les actes qui font partie de l'iman, ils se divisent en trois. قسم لازم لانعقاد اصل الايمان كالنطق بالشهادتين واقرار القلب بمعناها وتصديق باركان الايمان سته. Donc il y a des actes qui sont obligatoires pour que la foi elle soit valable, comme le fait de prononcer l'attestation, même si ça en vérité il l'a dit dans les paroles, et le fait que le cœur soit apaisé et soit sûr de la signification des attestations. Parce qu'en vérité, ça, c'est un acte du cœur. Et le fait de croire au pilier de la foi. قسم واجب وفرض كالصلاة وقراءة الفاتحة فيها وغيرها من أذكار الصلاة الواجبة وكثير من أعمال القلوب. Après, il y a une partie des actions qui est juste obligatoire dans la foi, sans laquelle la foi ne sera pas complète. Donc, comme la prière, même si pour la salat, il y a beaucoup d'ulama qui la considèrent dans la première catégorie, comme la catégorie des actes qui, sur la délaisse, la foi s'annule. Il y a un khilaf, ça vous connaissez tous. Le fait de lire la fatiha dans la prière, ça c'est un acte obligatoire. Et beaucoup d'actions du cœur, comme le fait de s'en remettre à Allah et d'aimer Allah, ça sont des actions obligatoires. القسم المستحب كذكر المطلق والصلاة النفل ونحوها. Et une partie des actions, elle est juste préférable, comme les salats, les nawafil, ou alors le fait de faire le vitre, etc. Donc les actes, ils se divisent en trois. Les actes, que ce soit du cœur, de la langue et des membres, ils font tous partie de la foi quand ils sont des obéissances, et ils se divisent en trois. Certains, sans laquelle la foi, elle est nulle, comme ash-shahadatayn, comme l'iqrar et tout, le fait de croire au cipier de la foi, et dans les actes, selon certains ulama, la salat. Et il y a une partie de ces actes qui sont obligatoires, comme la salat, la zakat. Celui qui les connaît pas, il sera pas un mu'min kamil. Et soit il le châtiera, soit il le pardonnera. Et une partie qui est juste préférable, donc non obligatoire, le croyant peut avoir une foi complète sans les faire. Comme le fait de faire du lit tous les jours, le Coran, etc. On continue la semaine prochaine.